Bonsoir. Cette mort, c'est le bilan provisoire des violences xénophobes en Afrique du Sud depuis quelques jours. Ces attaques ont suscité colère et inquiétude à travers l'Afrique. Au Nigeria, par exemple, les violences contre des enseignes sud-africaines se multiplient. En Zambie, des étudiants ont manifesté et en RDC, une vive tension s'est observée, notamment à Lubumbashi, devant le consulat sud-africain. Signalons aussi que plusieurs chefs d'État africains, notamment celui de la RDC, du Nigeria et de la Zambie, ont boycotté le Forum économique mondial sur l'Afrique qui s'est ouvert hier mercredi au Cap, la capitale parlementaire sud-africaine. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 5 septembre 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Timothée Mbuya, coordonnateur de Justicia ASBL, organisation de défense des droits de l'homme. Monsieur Mbuya, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Merci. Merci, professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Professeur Jeff Mudimbi, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly.
Et l'ambassadeur Mbene Poko, ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci de nous suivre à Johannesburg en Afrique du Sud sur www.radioocapi.net. Et pour vous qui êtes à Lubumbashi, rejoignez-nous sur la 95.8.fm. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La violence xénophobe en Afrique du Sud suscite des réactions dans certains pays du continent. En RDC, la tension a été perceptible ce jeudi, notamment à Lubumbashi. Le matin, plusieurs dizaines de Louchois en colère ont pris d'assaut le consulat sud-africain à Lubumbashi. Ils protestaient contre ce qu'ils qualifient d'actes de xénophobie à l'endroit des autres Africains, dont des Congolais habitant le pays de Mandela. D'après des témoignages sur place, ces manifestants ont tenté sans succès d'incendier le consulat. Quelques magasins appartenant aux Sud-Africains ont été pillés, mais ces sources ajoutent que les dégâts ont été limités grâce à l'intervention de la police. Dona Madimba nous en dit plus.
À ce stade, les informations reçues de plusieurs sources parlent de 7 personnes tuées par ces actes dirigés contre les étrangers en Afrique du Sud. Ils auraient commencé il y a 3 jours dans la région de Johannesburg et auraient pour objectif de dénoncer le chômage élevé des Sud-Africains et pointer du doigt les étrangers qui, selon les chômeurs sud-africains, voleraient le peu de travail qui aurait pu leur revenir. Ces violences en Afrique du Sud ont provoqué une notable vague de protestations dans le monde et à travers l'Afrique. Des nombreuses enseignes sud-africaines ont été incendiées au Nigeria, en Zambie et en RDC. L'ambassade d'Afrique du Sud à Abuja et son consulat à Lagos sont fermés depuis hier. Le Forum économique mondial sur l'Afrique, qui se tient en ce moment en Afrique du Sud, est boycotté, notamment par les présidents nigériens et de la RDC. Le Zimbabwe et le Botswana ont appelé à une extrême vigilance. Et de nombreux spécialistes estiment, quant à eux, que cette situation d'agression des étrangers en Afrique du Sud se répète régulièrement parce que les autorités locales ne font pas assez pour décourager ce type de comportement. En 2008, 62 personnes avaient été tuées dans les mêmes conditions, alors qu'en 2015, c'était 7.
Merci Dona Madimba pour tous ces détails. Timothée Mbuya, je rappelle que vous êtes coordonnateur des Justicia ASBL, une organisation de défense des droits de l'homme. Une nouvelle vague de xénophobie depuis lundi en Afrique du Sud. Le pays est coutumier du fait. Quelle lecture faites-vous de cette situation?
Madame, merci d'abord à la radio Capi pour l'invitation qu'elle nous a faite. Depuis un certain temps, bientôt 3 ou 4 jours, et à travers les réseaux sociaux que la population de Lubumbashi a été informée de ce qui se passait en Afrique du Sud, on a même vu des images montrant un citoyen pris pour Congolais qui aurait été poignardé et qui serait mort de suite de ses blessures. Mais disons que presque toutes les familles congolaises qui ont des frères ou sœurs habitant l'Afrique du Sud ont été aussi alertées par des appels téléphoniques leur disant qu'à Johannesburg, la situation était intenable. Et donc, face à cette situation, il y a eu plusieurs réactions, vous l'avez vous-même souligné, notamment à travers des gouvernements étrangers, mais la population du Congo, et en particulier celle du Katanga, a eu l'impression que les autorités ne faisaient pas suffisamment ce qu'il fallait faire pour sécuriser les ressortissants congolais qui sont en Afrique du Sud. C'est notamment ce sentiment de déception qui a poussé les gens à réagir de la manière la plus vigoureuse, comme on l'a vu ce matin à Lubumbashi. Et pourquoi Lubumbashi? Simplement parce que Lubumbashi est perçu comme la porte d'entrée ou de sortie vers l'Afrique australe. Et donc, la plupart des Congolais qui voyagent vers l'Afrique du Sud en passant par la route ou en utilisant la voie routière passent inévitablement par Lubumbashi et la Zambie et autres. C'est donc une explication qui pourrait justifier le fait que la population luchoise se sentant très proche de celle des Sud-Africains ou de celle de Johannesburg a donc reçu, très mal reçu, le fait que les Sud-Africains, utilisant des prétextes qui ne se justifient pas, et se sont donc attaqués à des citoyens ou à des étrangers et Congolais parmi eux. Voilà plus ou moins la lecture que nous faisons des événements qui se sont produits en Afrique du Sud et qui ont eu une extension ou des rebondissements jusque ici dans la province du Haut-Katanga ou en République démocratique du Congo.
Alors plusieurs dizaines de Luchois en colère ont pris d'assaut les consulats sud-africains à Lubumbashi. Certains magasins appartenant aux Sud-Africains ont été pillés. Vous l'avez dit tout à l'heure, la population estime que les autorités ne sécurisent pas suffisamment leur population en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que cette population aurait voulu que les autorités fassent?
Bon, ce que la population aurait voulu que les autorités fassent, c'était d'abord un message très fort et sans équivoque à l'endroit des autorités sud-africaines, leur demandant de prendre immédiatement des mesures de protection, particulièrement des Congolais et des autres Africains, mais également, comme on l'a vu sous d'autres cieux, il y a des gouvernements qui ont non seulement rappelé des ambassadeurs, mais qui ont également dépêché des émissaires spéciaux avec des messages particuliers à adresser au gouvernement sud-africain et à la population sud-africaine. Mais chez nous, on a eu l'impression que ce sont plutôt des acteurs politiques de manière individuelle qui ont réagi. Vous avez vu des opposants et même certaines formations politiques proches du pouvoir réagir alors que le gouvernement aurait dû, n'est-ce pas, prendre les devants et donner un message très fort. Si le gouvernement avait donné un message très fort, si le président avait, par exemple, ou le gouvernement avait dépêché un émissaire spécial avec un message particulier pour demander au gouvernement sud-africain de sécuriser de manière particulière aussi les Congolais, je pense peut-être qu'on ne serait pas arrivé au débordement qu'il y a eu aujourd'hui. Donc les gens aujourd'hui ont manifesté une certaine frustration, une certaine déception. Ils ont pensé que c'est peut-être le seul message que les gouvernements sud-africains ainsi que sa population pouvaient entendre. Malheureusement, un message de violence, un message qui transmet aussi la haine, et c'est des choses pratiquement que l'Afrique n'a pas besoin, que la République démocratique du Congo n'a pas non plus besoin.
Alors, ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre d'actes en Afrique du Sud. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, s'est excusé et a appelé les Sud-Africains au calme. Le gouvernement sud-africain refuse de parler des xénophobies et préfère utiliser le terme criminalité. Sommes-nous en face, là, d'actes xénophobes ou de criminalité, selon vous, Timothée Mbuya?
Bon, que ce soit la xénophobie ou la criminalité, ça revient presque même à la seule différence que, en principe, quand on parle de xénophobie, on devrait s'attaquer à tous les étrangers. Vraiment, les Sud-Africains devraient s'attaquer à tous les étrangers, y compris les Chinois, les Libanais, les Pakistanais, les Indiens, les Américains, même les Européens. Malheureusement, ici, il s'agit des attaques contre deux Noirs, particulièrement deux Noirs et deux Noirs africains. Donc, que ce soit la xénophobie ou que ce soit n'importe quel acte, ce qui s'est fait là, ce sont des actes répréhensibles, ce sont des actes criminels. Parce qu'on a vu dans les images que les gens sont effectivement allés dans les magasins des gens, ils les ont pillés, ils ont pris des biens, ils ont tué les gens à coups de bâtons, à coups de pierres, et même certains ont été aspergés d'essence sur leur corps. Disons que ces actes-là ne sont pas encouragés, comme je le disais tantôt. C'est vraiment une honte pour la race noire que nous sommes, parce que là, nous avons des noirs qui s'attaquent à d'autres noirs pour des motifs qui n'existent pas, pour des motifs qui ne peuvent, qu'on ne peut même pas justifier. Donc, pour nous, pour moi, je pense et j'estime que le gouvernement sud-africain ne devrait pas se contenter de simples déclarations, parce que vous l'avez souligné dans l'élément qui est passé, il ne s'agit pas de la première fois. Il ne s'agit pas de la première fois. Ces actes se répètent justement parce que le gouvernement sud-africain n'a pas l'habitude de prendre les mesures qui s'imposent à la gravité de cette situation. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en train d'être pratiquement isolée sur la scène africaine au regard de toutes les positions qui ont été prises par différents régimes ou par différents gouvernements africains.
Merci Timothée Mbouya. La réalisation me signale que nous avons un gros souci avec la ligne de l'ambassadeur Mbene Mpoko, ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. À la place, nous avons Peter Kazadi, qui est député provincial de l'UDPS. Monsieur Peter Kazadi, bonsoir.
Oui, bonsoir Kelly.
Alors, comment vous analysez-vous cette nouvelle vague de xénophobie depuis lundi en Afrique du Sud?
C'est étonnant que ces actes criminels et xénophobes proviennent de nos frères sud-africains, d'autant plus que les sud-africains ont bénéficié de la solidarité de l'Afrique entière lorsqu'ils étaient sous les jougs de l'apartheid. Ils ont bénéficié des soutiens et beaucoup plus des Africains noirs. Aujourd'hui, devenus libres, ce sont eux qui s'attaquent à d'autres Africains noirs comme eux. C'est là qu'ils sont soutenus au pire de leur vie. Je n'arrive pas à comprendre ce comportement et je ne sais pas comprendre ce qu'ils reprochent à leurs frères africains qui ont la même poké, qui ont les mêmes souffrances et qui ne cherchent qu'à vivre heureux sur la terre, notre terre africaine. Donc je désapprouve totalement ce comportement et j'estime que le gouvernement sud-africain devrait prendre des mesures radicales pour réprimer sévèrement ces comportements. Vous savez, c'est pas la première fois que nous assistons régulièrement à des attaques de violence dirigées contre d'autres Africains. C'est tout simplement déplorable pour l'Afrique, particulièrement puisque l'Afrique du Sud était considérée jusque-là comme le moteur, ce pays qui devait entraîner le reste du continent vers le développement.
Alors, le Forum économique mondial sur l'Afrique s'est ouvert hier mercredi au Cap. Plusieurs présidents africains étaient attendus à ce forum. Beaucoup ont préféré boycotter à cause de la situation qui se vit actuellement en Afrique du Sud. Le président Félix Tshisekedi est aussi attendu à ce forum. Malheureusement, il n'est pas allé. Est-ce que c'est aussi à cause de la situation qui se vit actuellement en Afrique du Sud?
Mais lorsqu'on s'attaque à des ressortissants de nos pays, des pays africains, en même temps on invite leur président, c'est inconcevable. Le fait de s'attaquer aux Africains habitant l'Afrique du Sud signifie qu'on ne veut pas même de leur pays, même pas de leur président. C'est normal que ces présidents puissent réquiser cette invitation pour rester solidaire à leurs ressortissants qui sont malmenés sur le sol sud-africain. J'encourage ces dirigeants, c'est un message fort qui est lancé au gouvernement sud-africain, qui doit sans délai prendre des mesures pour essayer de régulariser cette situation.
On reproche quand même aux autorités congolaises de n'avoir lancé aucun message à l'endroit des ressortissants congolais qui se trouvent en Afrique du Sud actuellement, qui ont besoin du soutien de leur gouvernement, mais aucun message de réconfort. Comment vous expliquez cela?
Oui, peut-être il manque la communication, mais des mesures ont été prises. Notre ambassade en Afrique du Sud a publié un communiqué. Je pense bien que le gouvernement et même l'abstention du président de la République, c'est un message fort qu'il est envoyé aux dirigeants sud-africains. Peut-être que c'est vous, les journalistes, qui devriez amplifier cette attitude du gouvernement, qui est un message clair et net.
Vous avez lu ce message, vous, M. Peter Kajadi?
Lequel?
Message du gouvernement.
Non. Je ne parle pas des messages écrits, je parle de l'attitude qui constitue un message.
Est-ce que cela suffit, le fait de ne pas participer au forum?
Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même une attitude qui atteste que le gouvernement, l'autorité suprême de la République démocratique du Congo n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Afrique du Sud. Il en est de même de tous les pays qui ont refusé de répondre à cette invitation sud-africaine.
Alors, comment vous analysez l'attitude des Congolais, particulièrement de Louchois aujourd'hui, qui ont pris d'assaut le consulat sud-africain et qui ont même pillé certains magasins appartenant aux Sud-Africains?
Les actes de pillage, de violence sont condamnables. Mais manifester pour protester, c'est tolérable. Donc, je soutiendrai toute action tendant à faire voir aux dirigeants sud-africains notre mécontentement. En même temps, je désapprouve tous les actes de violence.
Pourquoi, selon vous, M. Peter Kajadi, les Sud-Africains s'empruntent-ils aux étrangers?
Je n'arrive pas à comprendre. Jusque-là, je ne comprends pas qu'est-ce qui est reproché aux étrangers. Déjà, le gouvernement sud-africain a une politique de discrimination qui favorise les Sud-Africains et même surtout de la race noire. Alors, je ne vois pas ce qui est reproché à d'autres Africains qui sont sur le sol sud-africain.
Merci, Monsieur Peter Kajadi. Professeur Jeff Mudimbi, vous êtes professeur à la faculté des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Professeur, votre lecture par rapport à cette situation.
Madame, pour la question que vous venez de me poser, mais avant d'y répondre, je voudrais présenter toute ma compassion à l'égard de tous les Africains qui sont victimes d'actes barbares, xénophobes en Afrique du Sud. Et je voudrais ici en profiter pour rappeler que ne perdons pas de vue que si nous sommes de cœur avec des compatriotes qui vivent à l'étranger, mais nous devons retenir que à l'intérieur même aussi du pays, les Congolais sont toujours violentés, notamment par, je dis bien certains Congolais, par les Chinois, les Libanais, dans les entreprises minières dans lesquelles les Congolais travaillent, il y en a qui sont violentés. C'est ici l'occasion de rappeler au gouvernement de veiller à tout cela, à protéger les Congolais aussi bien en interne comme à l'externe, parce que le fait d'avoir la nationalité d'un État suppose que cet État puisse protéger aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Alors, revenant maintenant à la question que vous m'avez posée, je voudrais comprendre d'abord la cause même de ces actes barbares. Et comme vous le savez, de manière générale, les régions riches sont par essence celles qui attirent beaucoup de gens, Alors, la conséquence, c'est que dans ces régions riches, on assiste à une surpopulation. Et pendant ce temps, si le gouvernement ne prend pas des dispositions idoines pour créer des structures économico-sociales susceptibles de répondre aux besoins de cette surpopulation-là, rien, donc c'est une évidence, les peuples autochtones arrivent toujours à adopter des comportements agressifs vis-à-vis des immigrés, pensant que ce sont ces immigrés-là qui constituent la source de leur malheur, de toutes leurs difficultés. Et c'est ce qui explique, entre autres, ce comportement-là extravagant de Sud-Africains envers d'autres et d'autres envers les habitants d'autres pays d'Afrique. Alors, mais ce qui est évident, c'est que au nom de la réciprocité, je pense que autant que le gouvernement congolais est en train de fournir des efforts pour protéger les étrangers qui vivent sur le pays et sur le territoire national, le gouvernement sud-africain ferait aussi de même pour protéger les étrangers qui vivent sur son territoire. Mais nous avons constaté que cette affaire se répète, non seulement en Afrique du Sud, et l'Angola, le Congo-Brazzaville, et c'est ainsi que, bon, on a constaté que les différents gouvernements qui se sont succédés peut-être n'y accordaient pas beaucoup plus d'intérêt. Le Congolais ont brillé par une attitude beaucoup plus civique que d'aucuns pourraient peut-être qualifier d'attitude des poltrons. Alors, je pense que à ce niveau où nous sommes, les Congolais ont compris que peut-être c'est le langage de la violence qui peut faire que le gouvernement sud-africain comprenne aussi que, bon voilà, la situation risque de tourner au vinaigre et qu'ils prennent vraiment ces dispositions pour sécuriser les étrangers qui vivent sur le territoire sud-africain. Voilà.
Mais professeur, on se pose quand même la question de savoir pourquoi les Sud-Africains ne s'attaquent qu'aux Africains alors qu'il n'y a pas que des Africains comme étrangers en Afrique du Sud.
Oui, le problème c'est le suivant. S'il y a d'autres peuples, les Asiatiques, il y a les Européens qui vivent en Afrique du Sud, on se pose la question, c'est les autres étrangers qui sont en Afrique du Sud, que font-ils ? Peut-être qu'ils sont créateurs d'emplois. Mais alors que les autres Africains, noirs pratiquement, ils ne sont pas des créateurs d'emplois, mais plutôt commandeurs d'emplois. Alors, il en résulte que si le gouvernement sud-africain ne prend pas de bonnes dispositions pour offrir des emplois à son peuple, c'est-à-dire à ses citoyens, et que le gouvernement sud-africain ne travaille pas dans le sens de satisfaire aux besoins des citoyens sud-africains et de résoudre le problème auquel ils sont confrontés, alors les Sud-Africains vont considérer que les autres Africains qui sont là, ce sont eux qui constituent la source de leur malheur. Et c'est ainsi qu'ils adoptent des attitudes extravagantes, de comportements tout à fait agressifs envers les Noirs Africains qui vivent sur le sol ou le territoire sud-africain.
Et donc, si on vous comprend bien, professeur Moudimbi, tant que le gouvernement ne va pas répondre aux problèmes ou préoccupations des Sud-Africains, cette situation va continuer.
Oui, effectivement, c'est cela. Parce que j'ai rappelé, l'Afrique du Sud, on ne peut pas se voiler la face, ça fait partie des pays riches ou développés, entre guillemets, du continent africain. De ce fait-là, ce sont des pays, par essence, qui attirent d'autres populations. Alors, il se crée en Afrique du Sud une sorte de surpopulation. Quand il y a la surpopulation, il y a des besoins aussi énormes qui se posent. Des besoins d'ordre alimentaire, des raisons, des besoins vestimentaires, des raisons telles que liées au travail, etc., etc. Mais si, dans l'entretemps, on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, à ce moment-là, nous assisterons toujours à ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui.
Merci.
Qui plus est, il est aussi recommandé, je termine par là, que nos pays aussi fassent un effort de se développer, parce que si nous sommes développés, je crois que nous pourrons sédentariser nos citoyens. Mais alors, quand nous ne sommes pas aussi développés, il y a beaucoup de problèmes. Alors, à ce moment-là, les gens cherchent à trouver mieux ailleurs.
Oui, merci, professeur Moudimbi Timothée Mbouya. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Matadi.
C'est Joël Adji à partir de Matadi, Congo Satra. Il est évident que la crise xénophobe qui se vit en Afrique du Sud soit l'œuvre de quelques personnes désirées en quête d'occupation. Mais le laxisme et l'attitude du gouvernement sud-africain dénotent d'une complicité. D'où les actions diplomatiques d'envergure à la hauteur des drames causés aux étrangers en Afrique du Sud serait, à mon avis, envisageable, afin de permettre aux États touchés par cette barbarie et cet acte ignoble de traiter ce dossier avec considération et respect mutuel.
Simoté Mbuya, il faut des actions diplomatiques d'envergure pour se faire respecter, quoi.
Exact. C'est ce qu'on n'a pas senti dans les chefs de notre gouvernement, à part les boycotts que les chefs de l'État venaient de faire au sujet de ces sommets mondiaux sur le développement de l'Afrique. On a la population, comme je le disais tantôt, avait besoin de sentir que les ressortissants congolais qui sont à l'étranger, pas seulement en Afrique du Sud, mais à l'étranger de manière générale, sont sécurisés et protégés par le gouvernement. Et donc, cela passe inévitablement par des dispositions diplomatiques. Comme je le disais, il y a certains gouvernements qui ont tout de suite rappelé leur ambassadeur, et vous avez vu que le nôtre n'a pas été atteint parce que pour le moment, il est encore en Afrique du Sud, alors que celui qui devrait revenir au pays et expliquer de visu la situation aux autorités congolaises afin de plus approprier soit pris. Malheureusement, c'est là. Et le nôtre est encore
en train de faire. Oui. On a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Est-ce que vous pouvez. Est-ce que si vous êtes dans une maison, est-ce que vous pouvez aller à l'extérieur pour améliorer la qualité de la ligne?
Exact.
Voilà.
D'accord. Voilà. Oui. Voilà, je me suis déplacé.
Voilà, ça s'est amélioré. On vous écoute. Voilà.
Alors, je disais qu'effectivement, la population avait besoin de savoir que le gouvernement est en train de sécuriser le Congolais où qu'il se trouve, partout où ils sont dans le monde entier. Et ce qu'on n'a pas senti, c'est justement cela, on n'a pas senti que le gouvernement a pris des mesures diplomatiques en dehors du fait que le gouvernement, on venait de l'apprendre, le président de la République a boycotté la participation au sommet sur le développement de l'Afrique. Mais au-delà de cela, rien d'autre n'a été fait. Comme nous le disions tantôt, il serait souhaitable, par exemple, que des mesures draconiennes soient faites, notamment les rappels de notre ambassadeur de l'Afrique du Sud, qu'il vienne expliquer la situation aux autorités congolaises afin que des mesures soient prises. Cela n'a pas été fait. Et tantôt, il y a des gouvernements qui ont même repêché des émissaires spéciaux avec un message spécial. Donc, nous pensons qu'effectivement, comme l'auditeur l'a dit, il faut des mesures diplomatiques très sévères, un langage fort et des actions fortes pour que les gouvernements sud-africains ainsi que la population sud-africaine comprennent qu'il faut effectivement respecter le Congolais, il faut respecter les étrangers. Ne pas le faire est à la base de la récidive. Vous l'avez dit, c'est la troisième fois ou la quatrième fois que les étrangers, les Africains et les Congolais sont victimes de la barbarie des Sud-Africains qui ne comprennent pas qu'on ne peut plus aujourd'hui développer un pays avec simplement les compétences locales ou les compétences nationales. Donc, ces gens-là, ils les ont récidivés parce qu'ils n'ont pas senti, une réaction vigoureuse, une réaction forte depuis la première fois qu'ils ont commencé à s'en prendre aux étrangers. Donc, l'auditeur a parfaitement raison et je pose aussi son point de vue que sans des actions diplomatiques fortes et rigoureuses, nous allons encore revivre la même situation. Des compatriotes seront attaqués et les biens de nos compatriotes seront pillés et volés et détruits par des incivils sud-africains.
Merci Timothée Mbuya. Peter Kiazadi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Célestin, je vous appelle depuis Kinshasa. Avant tout, je connais la xénophobie dont sont victimes les Africains qui vivent en Afrique du Sud. Mais par rapport aux réactions des différents pays concernés par ces phénomènes, je pense qu'on ne peut pas résoudre la xénophobie par la xénophobie. En ce qui concerne notre pays particulièrement, je pense qu'il faut plutôt utiliser des voies diplomatiques. Car les investissements sud-africains en RDC, c'est des milliers d'emplois. Recourir à des actes de vandalisme, c'est s'attaquer à l'économie nationale qui est déjà fragile.
Alors cet auditeur vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, hein, maître Peter Kazadi, mais on a suivi Timothée Mbuya qui estime que les autorités congolaises devraient réagir, par exemple comme le Nigeria qui a rappelé son ambassadeur utilisé. On me signale que maître Peter Kazadi n'est plus en ligne. On va essayer de le retrouver. Alors, l'entendant de retrouver Peter Kazadi, on va prendre pour vous, professeur Modimbi, cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Florie Bassa est femme de l'eau depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À mon avis, je pense que les autorités sud-africaines sont assurément derrière cette lugubre situation. Étant donné que les étrangers ne sont pas protégés contre les violences xénophobes là. Les choses étonnantes, les auteurs de ces actes sordides ne sont ni inquiétés ni arrêtés par la police sud-africaine. Or, la plupart de ces violences sont faites en présence des agents de l'ordre. En plus, les dirigeants n'en parlent même pas. Moi, je tiens que l'Union africaine devrait formuler quelques sévères sanctions à l'endroit de ces pays afin de décourager de pareilles violences, car ce n'est pas la première fois que de tels actes se produisent en Afrique du Sud.
Professeur Modimbi.
Ok, merci beaucoup. Je voudrais saluer l'intervention de notre compatriote de Lubumbashi sur sa lecture des choses. Ce qui est tout à fait plausible. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas au premier forfait. Ces actes se sont produits plusieurs fois. Et nous n'avons jamais vu les gouvernants sud-africains prendre des mesures répressives de tous les auteurs de ces différents actes. Peut-être qu'on s'arrête seulement au niveau de condamner cela, au niveau de condamner cela à travers les médias, mais les actes concrets sur terrain, on ne les voit pas. C'est ainsi que nous pensons qu'avec des réactions peut-être de même ampleur en RDC, les présidents ou les dirigeants sud-africains pourront prendre cette fois-ci de bonnes dispositions pour encadrer la population de sorte qu'elle ne puisse plus encore manifester des attitudes extravagantes que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Mais je pense que tout cela, bon, ce que nous disons c'est bien beau, mais que faut-il, quelles sont alors les mesures peut-être beaucoup plus significatif qu'il faudrait prendre pour que nous ne puissions plus encore vivre ces faits.
Alors cet auditeur propose que l'Union africaine puisse sanctionner sévèrement l'Afrique du Sud pour que pareille violence ne se reproduise plus.
Bon, moi je ne suis pas de cet avis-là. Pourquoi ? Parce que quels sont les moyens que l'Union africaine a ou dispose pour sanctionner l'Afrique du Sud. Donc, je respecte son point de vue, mais que je ne partage pas. Pour moi, je pense que deux choses sont vraiment à mettre en exergue pour résoudre définitivement ou de manière efficace cette situation-là. Je mets l'accent sur le développement intellectuel et le développement socio-économique. En effet, le développement intellectuel permet, nous évite d'adopter des attitudes extravagantes. Comme vous le savez, le développement intellectuel a tenu nos mœurs, nous interdit de recourir à la violence pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté et satisfaire nos besoins. Mais à ce niveau-là, je voudrais dire ceci. Les intellectuels, par exemple, qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, les problèmes auxquels ils sont confrontés, deviennent plus dangereux que les illettrés. C'est là qu'intervient maintenant le développement socio-économique, c'est-à-dire à partir du moment où on a formé les gens sur le plan intellectuel et à partir du moment où on s'investit dans le développement socio-économique, les gens trouvent satisfaction à leurs besoins et résolution à leurs problèmes. À ce moment-là, il y a lieu d'obtenir des attitudes pacifiques aussi bien vis-à-vis des populations immigrées que des populations émigrées selon que l'on se situe dans le pays d'accueil ou dans le pays d'origine.
Merci, professeur Moudimbi. Timothée Mbouya, je rappelle que vous êtes coordonnateur des Justicia HBL, une organisation de défense de droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire, selon vous, pour éviter ce genre d'actes, ce genre de situation, pour éviter que ce genre de situation ne puisse se reproduire? Décidément, on a un problème de ligne. On me signale que Timothée Mbouya est perdu, on l'a perdu. Donc, on va essayer de le retrouver. En attendant, on va prendre quelques réactions des auditeurs. C'est le cas qui nous ont écrit. C'est le cas de Jean Kayembe qui dit ceci. Nous appelons nos autorités à protéger tous les Congolais vivant en Afrique du Sud contre ces actes ignobles. Nous voulons une diplomatie agissante. On ne peut pas avoir un pays ami qui laisse ses habitants massacrer les ressortissants de la RDC. Mais nos autorités continuent à collaborer avec ce pays comme si de rien n'était. Trop, c'est trop. Samy Kialondawa, le boycott des présidents africains n'est pas du tout une piste de solution. Ils devraient plutôt hausser leur ton en face de leurs homologues sud-africains à ce forum, comme du temps de Mobutu à l'ONU. Professeur Moudimbi, cet auditeur estime que les présidents ne devraient pas boycotter ce forum. Il fallait aller à ce forum et parler à leur homologue sud-africain, lui dire des vérités sur la situation qui se vit en Afrique du Sud.
Oui, je suis d'avis avec cet auditeur. La politique de la chaise vide ne paye pas. Il faut aller et condamner sur place. Mais ici, je ne condamne pas le président de n'avoir pas ou d'avoir boycotté ce forum-là. En effet, mon interprétation, c'est que ces présidents ont manifesté tout simplement la solidarité à leurs ressortissants qui sont malmenés. Alors, comment voulez-vous que ces présidents-là puissent se déplacer et dans un pays où on est en train de malmener leurs ressortissants? Donc par solidarité, par compassion, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec les attitudes des dirigeants sud-africains, c'est une autre manière de s'exprimer. Mais le mieux à faire serait d'y aller et d'aborder ces questions de manière profonde pour amener leurs homologues sud-africains de ne plus encore briller par le laxisme. À partir du moment où les étrangers sont tués, on ne mène aucune action d'envergure pour condamner tous ces délinquants-là, et on se limite seulement à faire une déclaration à travers les médias, comme quoi, bon, voilà, il faut adopter des attitudes pacifiques vis-à-vis des populations étrangères.
Alors, on me signale que... Merci, professeur. On vous donne la parole pour conclure. On me signale que Maître Timothée Mbouya est en ligne. Maître Timothée Mbouya, vous m'entendez?
Oui, c'est tout à fait. 5 sur 5.
Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, il y a un auditeur qui a proposé c'est que l'Union africaine puisse sanctionner sévèrement l'Afrique du Sud afin de décourager pareille violence. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais pas que l'Union africaine. L'Union africaine, madame, la plupart des personnes qui sont, des Congolais qui sont en Afrique du Sud ont le statut de réfugiés. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont sous la protection du droit international. Et donc, l'Afrique du Sud devrait donc, n'est-ce pas, mettre des bouchées doubles, donc sécuriser davantage ces personnes qui sont sous la responsabilité du droit international et éviter que pareil acte ne se reproduise. Donc, au-delà de l'Union africaine, je pense que le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés et même la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme devraient exiger non seulement des explications, mais également des sanctions à l'encontre du gouvernement sud-africain. Et l'Union africaine, qui sur le sol duquel ces enfants sont en train d'être tués, devrait, à mon avis, être encore beaucoup plus perspicace en prenant des mesures qui s'imposent pour que l'Afrique du Sud soit sanctionnée et que pareil acte ne se reproduise. Nous sommes surpris de constater que à la diplomatie de l'Union africaine comme celle de la République démocratique du Congo sont pratiquement des diplomaties très faibles, marquées par une très grande hypocrisie. On ne sait pas, le gouvernement ne sait pas prendre des mesures parce que on estime que l'Afrique du Sud c'est une grande puissance et donc on ne peut pas y aller, on ne peut pas montrer du doigt à l'Afrique du Sud sans qu'il y ait des représailles, alors qu'ici, il s'agit de la protection des citoyens congolais. C'est ça qui explique, n'est-ce pas, la position plus ou moins hypocrite des autorités congolaises à l'égard de ce qui se passe à l'Afrique du Sud. Donc pour nous, comme l'auditeur l'a dit, l'Union africaine devrait prendre des mesures pour sanctionner le gouvernement sud-africain et son peuple, des mesures draconiennes. Le gouvernement congolais pouvait aussi lever le ton et le RCR et la Commission des droits de l'homme devraient aussi faire de même. Je crois que nos organisations peuvent, les organisations de la société civile peuvent se saisir de ce cas pour aussi, n'est-ce pas, porter plainte devant tous ces mécanismes, les mécanismes africains et les mécanismes onusiens de promotion et de protection des droits humains.
Merci, Maître Timothée Mbouya. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de Justice ASBL, une organisation de défense des droits de l'homme. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté de sciences politiques et administratives à l'Université de Lubumbashi, votre mot de conclusion.
Oui, en dehors du fait que je demande aux pays africains de mettre beaucoup plus d'accent sur le développement intellectuel et le développement socio-économique, je voudrais tout simplement aussi rappeler aux médias que ce sont des couteaux à double tranchant. À cause des informations qu'ils diffusent, ils peuvent contribuer à l'intégration comme aussi à la désintégration de la population. Donc les médias devraient aussi jouer un rôle pacificateur pour éviter d'exacerber les conflits entre populations, entre nations.
Merci beaucoup, professeur Jeff Mudimbi. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais de Namadimba sous la supervision de Pene Kipela Mondo. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde de micro qui l'écoutait. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.